Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin. Donc voici les titres. L'arrestation de Radko Mladic est saluée par la diplomatie tchèque. Le président Klaus participe ce vendredi en Pologne à la rencontre des chefs d'État d'Europe centrale et orientale en présence de Barack Obama. Et puis du sport avec du tennis et Kvitova et Rosol qualifiés pour le troisième tour. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, s'est félicité de l'arrestation de l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, inculpé de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité pour son rôle dans la guerre de Bosnie. Je félicite la police et les services de sécurité serbes. J'espère que l'arrestation de Mladic va avancer le rapprochement entre la Serbie et l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie tchèque dans un communiqué. Invité par son homologue polonais Bronislav Komorowski, le président Václav Klaus sera à Varsovie ces vendredis et samedi, où il participera à une rencontre des chefs d'État des pays d'Europe centrale et orientale. En tournée en Europe cette semaine, le président américain Barack Obama participera également à cette rencontre. Seuls les présidents serbes et roumains seront absents, la Pologne ayant également invité la présidente du Kosovo, Kosovo que Belgrade et Bucarest ne reconnaissent pas. Les 22 présidents présents discuteront notamment de la manière dont les pays d'Afrique du Nord pourraient se servir de l'expérience des pays d'Europe centrale et orientale en matière de transition démocratique. De nombreux hommes politiques tchèques, dont le Premier ministre Petr Nečas et les présidents des deux chambres du Parlement, ont assisté ce vendredi en la cathédrale Saint-Guy à Prague aux obsèques de l'ancien ministre des Finances, Eduard Janota. La messe a été célébrée par l'archevêque de Prague, Dominik Duka, en présence de plusieurs centaines de personnes. Eduard Janota, qu'on surnommait Monsieur Budget, est décédé subitement vendredi dernier à l'âge de 59 ans. Un défilé de musiciens et de danseurs qui participent au 13e Festival international de la culture rome Kramoro a eu lieu jeudi dans le centre de Prague. Les habitants de la capitale et les touristes ont ainsi pu voir et entendre le groupe tchèque Bartale Apsa avec en tête le chanteur-compositeur Mario Bihari, l'ensemble Jaipur Maharaja Brass Band venu du Rajasthan, ainsi que des musiciens bulgares et portugais. Le festival sera clôturé samedi 28 mai par un concert de gala. Et jeudi et vendredi se tient toujours dans le cadre du festival une conférence sur les moyens de combattre la ségrégation ethnique dans l'éducation et dans la création artistique. Un mot de sport, je vous le disais en titre, jeudi deux joueurs tchèques se sont qualifiés pour le troisième tour des internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Évidemment, Petra Kvitova s'est facilement imposée face à la chinoise Zheng Ji, 80e mondiale, en 2-7-6-4-6-1. Et puis la tchèque tête de série numéro 9 sera ensuite opposée à l'américaine King au prochain tour. Dans le tableau masculin, Lukáš Rosol, 111e mondiale, a battu le demi-finaliste du tournoi de l'an passé, l'autrichien Meltzer, en 5-7, un long match. Et au troisième tour, le tchèque rencontrera l'argentin Juan Ignacio Rela. Voilà pour le bulletin, on termine avec quelques mots comme d'habitude sur la météo et des nuages et de la pluie en ce moment sur la capitale tchèque. La chaleur et le ciel bleu devraient revenir la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de week-end à l'écoute de Radio Prague et tout de suite vous retrouvez Magdalena Rosinkova pour la suite de notre programme en français.
Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de Radio Prague. Au sommaire de ce magazine d'actualité, la démolition controversée d'une maison historique sur la place Venceslas. Nous parlerons aussi de la nuit des églises organisée ce vendredi dans toute la République tchèque. Dans la seconde partie de l'émission, nous évoquerons avec l'ancien ambassadeur tchèque à Paris, Pavel Fischer, la récente élection de la République tchèque membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La maison du coin de la place Venceslas et de la rue Opletalova doit être détruite. Telle est la décision du ministre de la Culture, Jiří Bestr, qui a ainsi tranché dans un long différend opposant les investisseurs et les spécialistes de la protection des monuments historiques. Václav Richter.
La maison numéro 47 a été construite au XIXe siècle, remaniée en 1922. Sa façade élégante et discrètement ornée dans le style art déco illustre un des chapitres de l'évolution architecturale de Prague, ville dont le centre historique figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La présidente du club pour la vieille Prague, Katarzyna Bečková, rappelle que la maison fait partie intégrante de l'architecture de la place Venceslas.
skutečně ten dům krásně ladí i s tou linií.
En effet, la maison s'intègre harmonieusement dans l'ensemble des édifices dont les lignes fuient vers la coupole du musée national qui domine la place Venceslas. Si l'on érigeait à cet endroit un bâtiment brisant ces lignes majeures, cela porterait atteinte à l'ensemble de la perspective de la place.
Cela ne semble pas gêner le ministre de la Culture Jerzy Bessel, bien qu'il se déclare conscient qu'il s'agit d'une intervention dans une localité exceptionnelle et précieuse. Il a donné son aval au projet de démolition tout en rejetant une partie de la responsabilité sur une commission de son ministère. Les spécialistes de la protection des monuments historiques, eux, sont scandalisés par ce projet qu'ils jugent particulièrement dangereux parce qu'il peut servir de précédent pour d'autres interventions brutales dans le centre de Prague. Tel est aussi l'avis du président de la filiale tchèque du Conseil international des monuments et des sites, Josef Stultz. Cela nous inquiète beaucoup parce que cela révèle les dangers guettant le centre historique de Prague, qui est un site classé. On procède à la démolition d'une maison qui est très bien conservée. Il s'avère que le projet ne concerne pas que la démolition de la maison numéro 47, mais aussi deux bâtiments voisins, l'hôtel Yalta et une ancienne imprimerie qui seront eux aussi démolis, à l'exception des façades donnant sur la rue. Richard Beagle, du Club pour la vieille Prague, estime que la décision du ministre est alarmante parce que l'évolution de cette affaire est typique pour ce genre de projet. Il constate que le scénario est toujours similaire. L'investisseur achète des maisons protégées, détruit une de ces maisons dont il ne reste que la façade, mais ne s'arrête pas là et exige la démolition complète de maisons voisines. Par contre, l'historien de l'architecture Zdeněk Lukeš estime que la maison condamnée à la démolition n'a pas une valeur architecturale particulière et que les changements du paysage urbain de ce genre sont inévitables. J'ai entendu dire qu'il n'est pas possible de construire de nouveaux bâtiments sur la place Venceslas. Pourtant, depuis 1990, plusieurs maisons déjà y ont été démolies et remplacées par de nouveaux bâtiments, par exemple le palais Euro dans la partie inférieure de la place. Récemment, on a également démoli le palais Diamant. C'est donc un processus normal qui se poursuit même sur un site historique classé et protégé par l'UNESCO. Le ministre de la Culture explique sa décision par le souci d'éviter un procès contre l'investisseur qui pourrait se déclarer lésé et défendre ses intérêts en justice. Malgré les objections et les protestations, la maison de la place Venceslas semble donc condamnée parce que la décision du ministre est sans appel. Les travaux de démolition commenceront probablement en novembre.
C'est par la sonnerie des cloches que débute ce vendredi à 18h la nuit des églises en Tchèque Noc Kostelů, une nuit blanche organisée pour la deuxième année consécutive dans toute la République tchèque. Ce mini-festival qui propose des visites et manifestations insolites dans les édifices religieux est devenu curieusement très populaire parmi les Tchèques dont la majorité se déclare athée. Cette année, environ un millier d'églises ouvrent leurs portes dans le cadre de cette nuit blanche, soit le double que l'année dernière. C'est peut-être l'aspect informel, touristique et culturel de la manifestation qui aide les non-pratiquants curieux à franchir le seuil de l'église. On écoute l'organisateur de la nuit blanche et prêtre Miloš Sabo.
Les églises se présentent non seulement comme des lieux de service religieux, mais aussi comme des lieux de rencontre avec des genres, des cultures différentes. De notre côté, les croyants qui organisent les manifestations verront bien s'ils sont prêts et suffisamment flexibles pour pouvoir dialoguer avec des gens qui ne partagent pas forcément leurs opinions. Les églises seront ouvertes, mais les cœurs devraient être ouverts aussi.
Jsou otevřené i naše srdce.
Cette année, pour la première fois, la mosquée de Brno en Moravie du Sud participe elle aussi à la Nuit des Églises, construite en 1998 par la Fondation islamique de Brno, rue Videnska, non loin du centre-ville. Elle est la première et l'unique mosquée en République tchèque. C'est évidemment un lieu de prière destiné à un millier de musulmans de Brno, mais également un centre culturel et éducatif. Jalal Atassi de la Fondation islamique nous donne plus de détails sur la nuit blanche à la mosquée.
La mosquée est ouverte aujourd'hui à partir de 16h jusqu'à minuit. Nous proposons au public des visites guidées. Ils peuvent prendre des photos à l'intérieur et consulter des textes sur l'histoire de la mosquée de Brno, sur d'autres mosquées dans le monde et aussi sur les lieux saints chrétiens et juifs dans le pays musulman. Notre mosquée est accessible au public pendant toute l'année. Nous organisons aussi des journées portes ouvertes, souvent à l'occasion des expositions. Nous nous sommes joints à cette nuit blanche parce que ces trois dernières années, nous avons reçu beaucoup d'emails et d'appels téléphoniques de la part des gens qui étaient intéressés par les visites nocturnes de la mosquée.
Messe, méditation, rencontre avec les ecclésiastiques, spectacles, concerts sont à l'affiche de cette deuxième nuit des églises. Les visiteurs sont accueillis aussi dans des tours, cryptes, sacristies, tribunes et même dans les jardins. Ils peuvent se rendre par exemple à l'église Saint-Joseph de Brno, fermée au public depuis 20 ans. Toujours en Moravie du Sud, la commune de Vranov invite à visiter le caveau de l'église baroque locale où sont inhumés 50 membres de la dynastie de Liechtenstein. À l'intérieur de la cathédrale Saint-Barthélemy de Plzeň aura lieu un spectacle de lumière. Enfin, l'église de l'Immaculée Conception de la Vierge d'Ostrava Přívoz en Moravie du Nord propose elle aussi un spectacle particulier, une descente en rappel de la tour de l'église. Les organisateurs de la Nuit Blanche espèrent accueillir de 1 à 2 millions de visiteurs dans les églises du pays. La République tchèque a été élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vendredi dernier à New York. Candidate en compagnie de la Roumanie et de la Géorgie, la République tchèque, pour laquelle le respect des droits de l'homme fait partie des priorités de la politique étrangère, a obtenu pour les trois prochaines années une des deux places du groupe de l'Europe de l'Est au sein du Conseil. Ancien ambassadeur en France, Pavel Fischer est aujourd'hui le directeur politique du ministère des Affaires étrangères. Il en a dit plus à Guillaume Narguet sur cette élection et sur ce que seront les priorités de la République tchèque au sein de ce conseil.
Miroir de la société.
Monsieur Pavel Fischer, tout d'abord, que signifie et que représente cette élection au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la République tchèque ?
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est une instance relativement récente, c'est-à-dire elle existe depuis 2006 et c'est la première fois que nous avons remporté des élections. Nous avons été déjà membres au tirage au sort en 2006-2007. Mais cette fois-ci, c'était une vraie campagne. Et si vous relisez et revoyez les possibilités que ce Conseil a pour intervenir, pour nommer des responsables, voire pour montrer des injustices et des situations de manque de respect des droits de l'homme, vous vous rendez compte que malgré une certaine lourdeur administrative, c'est quand même un instrument assez efficace.
La République tchèque a bénéficié lors du vote de 148 voix sur un total possible de 191. C'est un nombre relativement important. Si je ne me trompe pas, la diplomatie tchèque savait qu'elle pouvait compter sur un nombre de 140 voix avant le vote. S'agit-il donc, selon vous, d'une reconnaissance du travail accompli justement par la diplomatie tchèque sur le terrain des droits de l'homme depuis plusieurs années ? On sait que le pays possède plutôt une bonne réputation en matière de droits de l'homme.
Dans la logique de la diplomatie multilatérale au sein de l'ONU, vous devez toujours vous méfier des chiffres, car les promesses, les garanties que certains pays vous donnent pour vous accompagner dans une certaine candidature ne sont jamais ne sont jamais définitives quelque part. Et c'est pour ça que nous avons souhaité à être sûrs que nous avons le potentiel de remporter. Ainsi, depuis plusieurs mois, nous avons travaillé un peu partout dans le monde pour être en position de gagner, de remporter. Et c'est vrai que nous avons déployé beaucoup d'énergie parce que il fallait être sûr que nous allons arriver en première place. Cette fois-ci, nous avons vraiment réussi. Donc, c'est un beau résultat. Il n'a pas été donné, mais nous nous réjouissons de cette confiance qui nous a été apportée.
Justement, concrètement, quelles ont été les démarches entreprises auprès des autres pays pour qu'ils vous accordent leur voix?
Notre ambition, c'est, et vous l'aviez rappelé tout à l'heure, c'est de renouer avec le travail et l'engagement que notre pays a pris de par le monde en faveur des droits de l'homme. C'est peut-être d'ailleurs intéressant de constater et d'observer que les droits de l'homme et l'engagement en faveur de leur promotion constituent une véritable trame d'action politique de notre pays qui n'a pas vieilli depuis 1989 et les grands moments portés et incarnés en particulier par des gens comme Václav Havel ou Peter Pitart et Iri Dinsbir et bien d'autres. Et donc c'est un engagement dans la durée qui renoue avec une certaine sensibilité qui a été cultivée, présente malgré le régime totalitaire avant 89. Aujourd'hui, pour le Conseil des droits de l'homme, nous sommes arrivés avec des ambitions de mettre en place de telles procédures que ce Conseil puisse être vraiment actif, car peu importe nos idéaux, nous sommes souvent à table avec des pays qui ont une vision différente des choses et parfois qui transgressent des conventions, voire qui se moquent des droits de l'homme dans leur universalité. Et c'est d'ailleurs notre accent sur la liberté religieuse, sur le combat contre la torture, en faveur de la liberté de la parole, en faveur des droits d'enfants, ou bien tout court en faveur de la société civique et des acteurs, des porteurs des droits de l'homme dans des pays où l'oppression est présente, qui nous a apporté un tel consensus. Et donc, nous nous sommes quelque part engagés et obligés de répondre à cette confiance.
Vous l'avez dit, au sein donc du Conseil des droits de l'homme, qui est composé de 47 pays, figure un certain nombre de pays où les droits de l'homme ne font pas partie des priorités, c'est le moins qu'on puisse dire. On pense à Cuba notamment, mais il y a aussi des pays comme l'Angola, la Chine ou encore la Russie. Il y avait même la Libye qui est actuellement suspendue. Qu'est-ce que la présence de ces pays vous inspire?
Vous savez, il faut jamais fermer la porte au dialogue. Et d'ailleurs, c'est le rôle de la diplomatie et c'est le rôle aussi des organisations distinctes non gouvernementales qui travaillent dans ces pays, avec ces pays, et qui voient qu'il y a toujours des germes non seulement d'espoir, mais aussi d'une réalité qui repose et qui transmet cet idéal dans les actes quotidiens. Et si je vous apporte un exemple par rapport à ça qui date des années 70. Rappelez-vous que dans le processus de Helsinki, avec ce panier, comme on l'appelait, des valeurs et des droits de l'homme, peu importe qu'au début c'était aperçu quelque part comme une ambition complètement irréelle et irréalisable, ce panier des droits de l'homme a réussi de pencher même les dictatures les plus dures en faveur d'une certaine ouverture que nous avons vu éclore en 1989. Donc, je crois qu'il ne faut pas désespérer. Dans les pays que vous avez cités, voire que vous n'avez pas cités et qui n'ont pas des références des meilleurs en matière des droits de l'homme et de leur respect, il ne faut pas non plus baisser les bras, il y a toujours des arguments, il y a toujours des situations dans lesquelles on peut agir. D'ailleurs, je vous rappelle, à titre d'exemple, que la Libye a été suspendue unanimement au sein de ce Conseil des droits de l'homme. C'est un exploit. Imaginez-vous quel était le dilemme des pays qui n'ont pas le respect des droits de l'homme parmi leurs priorités et qui ont dû trancher si oui ou non arrêter la Libye dans son activité au sein du Conseil. Donc je crois que c'est un instrument comme bien d'autres, mais un instrument qui a une potentialité intéressante, et nous sommes très heureux comme diplomates représentant la République tchèque et d'ailleurs représentant la communauté européenne de pouvoir travailler sur ce beau chantier.
Dernière chose, nous avons parlé du respect des droits de l'homme. De par son expérience, son passé totalitaire, le soutien à la démocratie et l'aide à la transition pour les pays ayant connu un régime totalitaire font partie depuis plusieurs années des priorités de la politique étrangère tchèque. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de l'application de cette politique ?
Vous savez, nous avons ici une équipe des gens qui travaillent dans une logique d'accompagnement des transformations. Et ce sont des gens qui, souvent dans des régimes très difficiles d'accès, ont réussi à tisser des liens et travaillent directement ou souvent indirectement en faveur des gens qui s'engagent, qui sont souvent emprisonnés. Donc on aide par exemple les familles des détenus. On aide aussi dans leur situation en parlant de leurs conditions qui est souvent complètement contradictoire avec le respect des droits de l'homme, des détenus, d'un procès juste. C'est d'ailleurs en rappelant les principes et les engagements internationaux d'un tel pays qu'on peut faire changer des choses. Nous travaillons par exemple dans des situations presque de clandestinité dans certaines zones du monde où on ne voit pas depuis Bruxelles ou depuis Prague comme capitale bien comment les choses se passent dans l'ombre. Et si vous regardez par exemple comment une autorité parmi d'autres, mais qui a quand même une voix unique dans ce genre-là, qui est Aung San Suu Kyi en Birmanie ou en Myanmar, comme on dit aujourd'hui. Aung San Suu Kyi a remercié à plusieurs reprises la République tchèque et en particulier M. Václav Havel, qui accompagne depuis de longues années son combat en faveur de la liberté politique et du respect des droits de l'homme dans son pays. Donc vous voyez, par ce combat, vous rapprochez des gens qui partagent le même idéal dans des situations parfois très dangereuses où ils mettent en danger leur vie, la vie de leur famille. Et quelque part, être sur le terrain à leur côté est quelque chose de merveilleux, parce que vous voyez que des paroles et des déclarations peuvent avoir un impact très réel et très direct dans la vie quotidienne des gens.
C'était Pavel Fischer, le directeur politique du ministère tchèque des Affaires étrangères. Pavel Fischer répondait aux questions de Guillaume Narguet relatives à l'élection de la République tchèque au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Chers auditeurs, c'est la fin du programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková vous remercie de l'avoir suivi.